rapport du philosophe premier par le père Marie-Dominique Philippe, le 29 novembre 2001 à Saint-Judas.
Je reviens encore sur la question de l'autonomie qui est fondamentale au point de vue de ce qu'est la personne. Ça a joué beaucoup du reste à travers le développement de la philosophie, l'esclavage était justement quelque chose où l'autonomie fondamentale n'était pas respectée. Et l'esclavage tenait en tutelle. Donc il n'y avait pas de personne. On regardait l'individu. Et c'est la personne libre, autonome, et elle l'est fondamentalement en tant qu'elle a une âme humaine. L'âme humaine, fondamentalement, me donne cette liberté. Mais n'oublions pas que la personne, je vous l'ai dit, c'est cette manière d'être concrète, le pos, qui se fonde sur la causalité formelle de la substance, donc de l'âme, mais qui se précise dans son exercice par la causalité finale, par l'acte. Puisque la personne, c'est justement l'union de la recherche de la causalité formelle et de la causalité finale. Je ne peux pas parler de la personne sans parler de la fin, la finalité. Et la finalité va donner à la personne un caractère beaucoup plus précis. On est autonome dans la mesure où on a choisi sa finalité. Dans la mesure où cette finalité est de plus en plus précise dans notre vie, dans cette même mesure, notre autonomie est de plus en plus grande. Et prenez concrètement, quand on a choisi, de prendre une vie où l'on recherche la vérité, la finalité humaine, je ne prends pas le point de vue surnaturel du religieux, ça, c'est pas autre chose. On peut le regarder après. Mais la première chose qu'il faut regarder, c'est notre finalité de la recherche de la vérité. La recherche de la vérité est présente dans notre vie et elle forge en nous une détermination très particulière qui vient préciser ce qu'est notre personne. C'est sûr, c'est la recherche de la vérité, donc c'est l'intelligence. Mais la recherche de la vérité va donner une autonomie très spéciale. La plupart des gens, je dis des gens, ne sont pas des personnes parce que elles n'ont aucune finalité, aucune détermination qui vient de la fin. Il n'y a pas de recherche de la vérité. On suit ce que tout le monde fait, sans du tout se poser la question de la vérité. Et ça, on pourrait voir ça actuellement dans cette recherche de la biologie et de la morale. Au fond, ce n'est plus la finalité qui commande. Et c'est ce que tout le monde fait. C'est le point de vue du suffrage universel qui va servir de détermination. Et on changera la loi en fonction de ce suffrage universel. Ce qui ne signifie rien du tout au point de vue philosophique. Le suffrage universel, on sait très bien ce qu'on a dit sur le suffrage universel dans l'Antiquité. Dès que le suffrage universel domine, or actuellement le suffrage universel est roi. Or tout le monde reconnaît dans l'Antiquité que le suffrage universel fait la baisse, fait baisser notre finalité et nous conduit à ne plus voir ce que doit être vraiment l'homme dans sa finalité pour la recherche de la vérité. Vous voyez, si vous demandez, si vous faites une recherche actuellement de recherche de la vérité, tellement peu d'hommes cherchent la vérité. On essaie de faire ce qui est admis par tout le monde. Mais même dans la conduite, le petit gouvernement du bien-être, du bien dans une communauté, on arrive à ne plus voir vraiment la recherche de la vérité comme étant ce qu'on doit chercher, mais ce que tout le monde va accepter. Ça peut avoir signification, ça peut être intéressant à savoir, mais on ne détermine pas sa finalité en fonction de l'opinion commune des gens. Vous voyez, ce serait la finalité générique, et ce ne serait plus la finalité spécifique qui l'emporterait. De sorte que c'est quand même très important de voir que dans l'autonomie, qui est la première note caractéristique de la personne, fondamentalement, c'est l'âme. Mais précisons tout de suite que c'est la finalité, la recherche de la vérité. Et que la recherche de la vérité nous rend autonomes par rapport à tout ce que les autres peuvent dire. Aujourd'hui, ce que les journaux disent fait la vérité, l'opinion commune. On ne cherche plus de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ça a été dit dans le journal, donc c'est vrai. Ça a été dans le journal, donc quelqu'un, un individu, dit ça. Et si cet individu est passionné, ben ce sera sa sincérité. Ce ne sera pas du tout la vérité, ce sera sa sincérité. Oui, quand vous lisez le journal, vous ne le lisez pas beaucoup, Navicia, il ne faut pas. Mais quand vous lisez un journal, le journal, posez-vous toujours cette question. Soyez critique. Là, vous pouvez l'être. En disant quand même ça. Est-ce que c'est vrai? Parce que petit à petit, on se moule. L'intelligence devient molle. On se moule à l'opinion commune. Et si l'opinion commune qui fait de nous des esclaves. Esclaves, c'est la nouvelle espèce d'esclavage. L'esclavage de l'opinion commune. Et l'esclavage de l'opinion commune, c'est contraire à la personne. Il n'y a plus de personne aujourd'hui. Il y a des individus qui font taire complètement le sens de la finalité. C'est ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde respecte, ce que tout le monde reconnaît comme vrai, qui est la vérité. Or, Cicéron dit que le suffrage universel conduit toujours à baisser la tête. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité et ne cherchent que l'opinion commune. C'est très curieux, du reste. Même, vous voyez, dans la vie religieuse, aujourd'hui, pour telle ou telle décision, ce ne sera pas le critère de la vérité qui va dominer. Ce sera l'opinion commune. Alors, l'opinion commune dans une communauté est ordinairement bonne, surtout au noviciat. Et quand on s'approche déjà et qu'on est loin du noviciat, c'est déjà beaucoup plus varié. L'opinion commune ici, ou l'opinion commune pour ceux qui font de la théologie, c'est différent. C'est très curieux. Il faudrait faire une fois l'essai. On verrait. Ce serait amusant de voir comment l'aiguille opinion commune baisse. Et plus vous allez loin, plus vous verrez ça. Alors, en dehors, actuellement, il y en a combien qui cherchent la vérité? Donc, alors, il y a ce facteur-là qui est important à voir. Et c'est pas comme ça, c'est toujours fondamental. La recherche de la vérité me rend libre. Ça, c'est vrai. La recherche de la vérité me rend libre. On s'en fiche pas mal de ce que les gens pensent. On cherche la vérité. Alors, on doit tenir compte de l'opinion des autres. Oui, oui, on doit tenir compte de l'opinion des autres. Parce que si on ne tient pas de l'opinion des autres, très vite, on est obligé alors de baisser. Alors, il vaut mieux baisser soi-même, au bon moment, dans tel ou tel domaine, pour donner un peu de nourriture à tous ceux qui vous surveillent. Alors, on leur donne une tranche de pâté. Alors, ils sont tranquilles. On ne les empoisonne pas, mais on leur donne une tranche de pâté. Alors, ils se taisent pendant un certain temps. Ils se nourrissent. On doit avoir cette attention-là pour garder sa liberté, pour garder quelque chose de plus profond. Parce qu'autrement, on deviendra esclave de l'opinion commune. Et il faut réfléchir à ça. Évidemment, c'est très proche du point de vue politique, ça. C'est pas uniquement... Je ne cherche pas ce que c'est que la personne au point de vue politique. Je la cherche au niveau métaphysique. Mais je vois, et je dois dire, que cette recherche de la vérité me rend libre. Quand j'ai vu que c'était ça la vérité, je marche. Mais je sais que ceux qui sont autour de moi peuvent mettre des bâtons dans les roues, et m'empêcher de réaliser ce qui me semblait être devoir être. Alors à ce moment-là, je suis bien obligé de faire attention. Mais je le fais consciemment. Et donc je ne perds pas à ce moment-là ma lucidité personnelle. Je ne deviens pas l'esclave de l'opinion commune. Devenir l'esclave de l'opinion commune, c'est perdre l'autonomie personnelle. Et si on perd l'autonomie personnelle, l'autonomie de la substance, qui est fondamentale, n'est pas suffisante, puisque dans ma vie humaine, tout se détermine en fonction de la finalité, au point de vue moral, au point de vue humain. Tout se détermine par le point de vue de la finalité. Mon âme, peut s'orienter de façon très différente. Les possibles sont divers. Et donc, l'autonomie fondamentale que l'âme me donne, mon âme spirituelle, n'est pas suffisante pour que je coopère à la formation de ma personne, puisque je dois coopérer à la formation de ma personne. Je ne suis pas né avec ma personne. Quand vous voyez un petit enfant de 6 mois, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» Vous avez toutes les espérances. Il a une âme. Il a toutes les espérances. Mais qu'est-ce qui va être la détermination? Alors, l'éducation joue beaucoup. Ça détermine vite, très vite. On doit choisir très vite. Alors, le danger très grand aujourd'hui, on doit le voir. Nota bene, c'est pas directement ce que nous voyons, c'est que la formation devient de plus en plus mathématique. La formation universelle. Or, on voudrait que la formation soit universelle, qu'il n'y ait qu'une seule formation pour un pays. Pas en Amérique, heureusement. L'Amérique garde là-dessus une conception qui est beaucoup plus juste. Des formations beaucoup plus grandes. Mais en Europe, les fameuses discussions sur l'euro, on tend à une formation unique. Et la formation chrétienne doit elle-même se modifier pour être acceptée. Et le baccalauréat a des programmes différents, c'est sûr, mais dans tous ces programmes, il y a une idée. En haut, il y a une idée. C'est le point de vue mathématique qui doit être développé et de plus en plus. Or, le point de vue mathématique reste dans une formation formelle et non pas de finalité. Les mathématiques ne forment pas la personne. C'est dur de dire ça. Hein. Je sais que c'est dur de dire ça. Mais au point de vue philosophique, je suis obligé de le dire. Pourquoi ? Parce que les mathématiques ne touchent pas la finalité. les mathématiques touchent la cause exemplaire, mais pas la finalité. Donc les mathématiques ouvrent à toutes les possibilités de développement. Toutes les possibilités. Et elles vous laissent libre dans ces possibilités. Mais cette liberté n'est pas une liberté d'autonomie. C'est une liberté de pouvoir se casser la tête. Casser la tête à toute l'humanité. On conduit l'humanité vers des chemins qui sont terribles. On le voit bien du reste. Hein. Qui est arrivé il n'y a pas très longtemps montre bien que la formation mathématique peut former à droite et à gauche des gens très puissants qui, en point de vue calcul, une maîtrise merveilleuse, donc au point de vue de l'efficacité, et souvent de l'efficacité destructive, puisqu'on peut actuellement rendre la Terre, l'univers qu'on habite, incapable de nous permettre de vivre. Au point de vue négatif, la puissance de l'homme est de plus en plus grande, parce que les mathématiques donnent toutes les possibilités. Mais elles ne précisent pas quelles sont celles qui sont bonnes pour l'homme. Les mathématiques ne peuvent pas le dire. Elles peuvent dire celles qui sont efficaces, celles qui peuvent se faire, étant donné ce que l'homme actuellement possède. Mais elles ne précisent pas plus. Or, on va de plus en plus vers une formation mathématique universelle. Avant, c'était partagé, très nettement. Il y avait deux formations. Il y avait la formation mathématique et la formation littéraire. On disait littéraire, latin, grec. Mais c'est complètement perdu aujourd'hui. Et on ne voit pas le danger. Mais au bout de 20 ans, 30 ans de ça, il n'y aura plus de vraies personnes. Il y aura des robots merveilleux, des possibilités étonnantes. Mais dans ces possibilités étonnantes, il y aura aussi des possibilités étonnantes dans le mal, dans la destruction. Et ça dépendra de celui qui est à la tête. Or, celui qui est à la tête sera forcément de formation mathématique très poussée et ne verra pas le danger. La prudence n'est pas d'ordre mathématique. Les mathématiques ne forment pas la prudence. La prudence, c'est une petite sagesse pratique. Mais c'était une sagesse pratique. Les premiers sages de l'Antiquité sont des hommes prudents au plan politique. Tandis qu'aujourd'hui, les hommes prudents au point de vue humain, au point de vue politique, on les compte sur les doigts. Tandis que le pouvoir, la possibilité de préciser et de déterminer les possibles mathématiques et les développements possibles mathématiques se développent intensément et d'une façon extraordinaire, étonnante. Je crois qu'on doit voir là, au point de vue philosophique, le très grand danger qu'il y a. L'humanité, comme humanité, notre humanité, pas partout, c'est comme ça, mais notre humanité occidentale est une humanité qui est très avancée du côté mathématique, très avancée du côté de la recherche du possible, mais en retard au point de vue de la vraie prudence humaine, politique, et de la vraie finalité de l'homme. La vraie finalité de l'homme, on n'en parle plus. Quand vous voyez les lois qui se déterminent aujourd'hui, le point de vue de la finalité humaine disparaît complètement. Eh bien, on va donc vers une humanité qui n'aura plus d'autonomie. On sera esclave des mathématiques. Alors ça, un esclavage très noble, mais c'est un esclavage au point de vue de la finalité. On aura une noblesse mathématique. C'est peut-être comme ça que doit terminer notre monde, notre Europe. Parce que l'Inde, c'est pas ça. La Chine, c'est pas ça. C'est une partie de l'humanité. Et une partie de l'humanité qui est très forte, parce que sa puissance oblige les autres pays de suivre ça à cause du danger. Elle entraîne, parce qu'au point de vue efficacité, elle a une efficacité plus grande. Et c'est ce point de vue de l'efficacité que l'on parle. Or, le point de vue de l'efficacité n'entre pas dans la conception de la personne. Très curieux. Cet homme est très efficace, mais ça fait pas une personne. Ça fait un robot. Un instrument merveilleux. Ça fait l'esclave. L'esclave au point de vue intellectuel. Il dépend du tout. Parce que les mathématiques voient le tout, la finalité c'est le tout. La cause exemplaire. Donc c'est important de bien préciser que cette autonomie, qui est le premier élément de la finalité, implique substance et fin. C'est difficile à voir le dosage. Il y a un dosage qui est difficile à préciser et qui dépend des différents types de personnes. Parce qu'on verra au terme qu'il y a différents types de personnes auxquelles le dosage fondamental de la substance et de la finalité sont différents. Donc, premier élément de la personne, l'autonomie, qui dépend de l'âme et qui dépend de la finalité. Parce que nous sommes dans l'ordre pratique. La personne, c'est une réalité existentielle. Elle ne peut pas se passer de la finalité. Vouloir former quelqu'un uniquement dans l'ordre formel et dans l'ordre mathématique, c'est grave pour la destinée profonde de l'humanité. Je crois que c'est le grand problème actuel. Et les mathématiques s'imposent de plus en plus. Et pour que les mathématiques s'imposent comme une sagesse, on ne veut plus parler de l'âme. ne parlant plus de l'âme, évidemment, on ne voit plus le point de vue de la finalité. Soyons au moins lucides. Si on fait de la philosophie, c'est pour être lucide dans ce que nous vivons et dans le milieu dans lequel nous vivons. Et essayons d'atteindre cette vérité complexe, puisqu'elle implique des éléments différents, qui est la personne. Le second élément de la personne, je vous ai déjà dit la fois dernière, c'est l'intelligence. Alors là, il faut préciser, c'est l'intelligence et non pas la raison. Si je distingue les deux, on peut employer raison d'une façon générique en impliquant l'intelligence. On peut, et ça se fait couramment. Oui, le Saint-Père, dans son encyclique « Foi et raison », ne dit pas « foi et intelligence », il dit « foi et raison ». Et on précise que c'est la raison qui s'épanouit en intelligence dans une recherche de la finalité. Alors ici, nous précisons, ce n'est plus seulement un fondement, mais nous précisons que la personne humaine implique un développement de l'intelligence et pas uniquement un développement de la raison. Distinguons bien les deux. En philosophie du vivant, vous avez déjà vu cette distinction. Nous reprenons ici cette distinction élémentaire. Et voyez, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que dans des pensées dialectiques, vous transposez dans l'intelligence ce qui est vrai de la raison. La dialectique, c'est un mouvement de la raison. Si j'étais vraiment intelligent, je n'aurais pas besoin de la dialectique. Comme on ne distingue plus raison et intelligence, on fourre dans l'intelligence la dialectique. Et c'est très curieux que ceux qui ne veulent plus distinguer intelligence et raison, forcément, en constatant la réalité, voient que le raisonnement qui est nécessaire pour le progrès, mon intelligence progresse en raisonnant, mon intelligence vit par l'expérience, mais elle progresse forcément en raisonnant. La science implique des raisonnements, des inductions et des démonstrations, les deux mouvements de l'esprit. Et ces deux mouvements de l'esprit, on les unifie en faisant la dialectique. La dialectique est un mouvement complexe qui, au fond, implique des inductions et des déductions. De fait, au plan philosophique, si on regarde Aristote, si on regarde saint Thomas, il y a très nettement deux registres de pensée. Celui du raisonnement qui reste commandé par le désir de définir, la recherche des lois. Et puis, un mouvement de l'intelligence qui, par l'induction, va saisir les principes. Ordonner à ce qui est. Beaucoup d'intelligence aujourd'hui, commandée par les mathématiques, ne cherche plus du tout de savoir si cela existe ou n'existe pas. C'est possible. Et on vit de plus en plus dans le possible. C'est curieux de voir que, avec Descartes, avec Kant, au fond, la distinction ancienne de intellectus, intelligence, et ratio disparaît. On a le mouvement dialectique. Et le mouvement dialectique est à la fois l'intelligence et la ratio, mais c'est la raison qui l'emporte sur l'intelligence. C'est un mouvement. À la place d'avoir un raisonnement de l'intelligence, un raisonnement de la raison, on a le mouvement de l'intelligence qui est dialectique. Je crois ça très important, c'est de la critique. C'est de la critique, ça. C'est de voir que mon intelligence a une première opération, l'appréhension, une seconde opération, le raisonnement, et que l'intelligence, comme intelligence, est au-dessus de la raison. Elle l'implique. Je ne peux pas me passer du raisonnement. Je sais bien que mon mode d'être intelligent, c'est de raisonner. Mon mode d'intelligence, c'est de définir. Mais je sais, j'ai conscience, que mon intelligence a une possibilité d'atteindre ce qui est jugement d'existence. Alors, nous le retrouvons ici comme élément de la personne. C'est l'intelligence métaphysique du réel, de ce qui est. C'est l'intelligence ouverte à la recherche des principes. Et en définitive, à la recherche de l'être premier. Une intelligence dialectique, une intelligence purement rationnelle, n'est pas un élément constitutif de la personne. C'est aussi très très important de comprendre ça. La personne est au niveau de l'être, et non pas au niveau du devenir. Je ne définis pas la personne par son devenir, par ses raisonnements. Il y a des gens qui raisonnent très bien et qui sont bêtes. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Parce qu'ils ne savent même pas ce que représente la réalité, ce qui est. Le jugement d'existence à l'égard de la réalité, ils ne savent pas ce que c'est. Et c'est vrai que quelqu'un qui est formé purement dans l'ordre mathématique est intelligent dans ses modes mathématiques, mais quelquefois, dans l'ordre pratique, c'est pas du tout. Et dans l'ordre métaphysique, il ne sait pas du tout. Il est formé à la recherche des possibles, de l'être mathématique, mais il ne voit pas ce qu'est la réalité à ses pieds. Il ne voit pas ce que c'est que la famille. Il ne comprend pas. Parce qu'une famille mathématique, c'est pas très commode. Quand la soupe doit être chaude, oui, il saura que la soupe doit être chaude à tel degré. Il faut évidemment la chaleur pour qu'elle... Mais il ne saura pas ce que c'est. C'est très étonnant la formation mathématique. Hein. Et c'est très important de bien la comprendre aujourd'hui. Parce que, encore une fois, on vous forme dans les mathématiques. Et c'est très vrai qu'on n'a jamais été aussi loin dans l'ordre mathématique. Mais on ne voit plus que notre intelligence humaine est faite pour la vérité. Alors, vous allez toujours préciser qu'est-ce que c'est que la vérité. Or, comme élément de la personne, c'est une intelligence capable d'atteindre la vérité. La vérité spéculative, la vérité pratique, la vérité poétique, la vérité affective, de saisir toutes ces modalités particulières de la vérité. C'est absolument nécessaire pour comprendre ce qu'est la personne humaine. Oui, c'est une recherche de vérité purement métaphysique ne suffirait pas. Il faut une vérité pratique. On le verra, ça. Puisque de fait, on dit il faut non seulement l'intelligence, mais il faut la prudence. Alors, il faut qu'au point de vue de l'intelligence, quand je dis que l'intelligence est le second élément nécessaire pour la personne, je prends une intelligence qui est capable de découvrir la vérité. C'est-à-dire une intelligence ordonnée à ce qui est capable de saisir ce qui est, de discerner le possible et l'acte. On a vu précédemment en philosophie la distinction entre l'acte et la puissance. Et c'est mon intelligence qui fait cela. C'est cette intelligence capable de discerner le réel existant du possible. Une intelligence qui ne peut plus faire cette distinction-là, qui confond le réel existant et le possible, n'est pas un élément de la personne. Parce que c'est une intelligence dialectique et qui est persuadée que le mouvement dialectique, c'est la vérité. Alors, dans le mouvement dialectique, je ne suis pas dans le réel. C'est mon intelligence qui fabrique le réel. Et je crois que tout ce que mon intelligence atteint est réel. Peut-être réel, mais puisque ça peut être réel, c'est réel. Il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose, ce que mon intelligence atteint, c'est quelque chose de réel, mais ce n'est pas le réel existant. c'est-à-dire le réel autre que moi, le réel que je respecte comme étant autre que moi, le réel qui, pour moi, est source d'expérience. Ce que mon intelligence est capable de fabriquer n'est pas, pour moi, source d'expérience. C'est ce qui fait connaître le pouvoir de mon intelligence. Le pouvoir de mon intelligence n'est pas le réel. Il n'y a que l'intelligence divine qui peut créer. Mon intelligence ne peut pas créer l'être. Je respecte ce qui est, mais je ne le crée pas. Par le fait même, ma dialectique passe au-dessus de l'être et indépendante de l'être. Je ne le crée pas. Je suis obligé de revenir toujours à ce qui est dans un jugement d'existence. Et le jugement d'existence doit toujours être présent dans ma vie intellectuelle en tant que ma vie intellectuelle est un élément essentiel à la personne. Une intelligence dialectique n'est pas un élément essentiel à la personne humaine. Ça va très loin, ça. Si vraiment on comprend ça, on sait ça, c'est même quelquefois affolant. Il y a tellement peu d'intelligences qui sont suffisamment lucide pour distinguer le possible et ce qui est. On a vu précédemment la différence dans l'ordre de l'être entre la puissance et l'acte. Et on reprend cette distinction en voyant qu'une intelligence qui ne fait pas cette distinction-là, c'est-à-dire une intelligence mathématique, ou au point de vue philosophique, parce que ça existe au point de vue philosophique, une intelligence qui ne fait pas la distinction entre le possible et l'être, où il n'y a pas de jugement d'existence, cette intelligence-là n'est pas un élément de la personne. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que la personne implique la finalité. On ne peut pas être une personne humaine si on ne comprend pas ce qu'est la finalité humaine. Et on la saisit par l'intelligence, la finalité. C'est dans l'amour que vous saisissez la finalité, mais vous la saisissez par l'intelligence. Ce n'est pas votre amour qui vous fait saisir la finalité. La finalité est un principe que l'intelligence saisit. Et une intelligence personnelle, une intelligence qui fait partie de la personne humaine, est une intelligence qui saisit ce qui est le bien. Mon bien est quelque chose de réel, d'existant. Mon bien, c'est l'ami. Et c'est atteindre celui qui est le premier. Vous voyez, il y a là aussi quelque chose de très important à saisir, surtout dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, on est tellement cette erreur qui nous fait croire que nous pouvons mesurer l'intelligence de quelqu'un. En réalité, on ne mesure pas l'intelligence, on mesure son développement mathématique. On saisit ses capacités de raisonner d'une façon mathématique, sa capacité de saisir le possible. C'est une capacité dialectique qu'on saisit. On ne saisit pas l'intelligence comme telle, l'intellectus, qui saisit ce qui est et qui discerne ce qui est du possible. Une intelligence qui a atteint sa finalité, c'est-à-dire la vérité, et qui dit que ce qu'elle conçoit est bien adéquat à la réalité. C'est la réalité existante qui est la mesure et qui permet de voir si mon intelligence est capable de saisir ce qui est, ce qui existe. Et en saisissant ce qui existe, elle juge ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Or, une intelligence qui ne saisit plus la distinction entre le vrai et le faux et l'erreur ne peut pas être une intelligence qui est un élément qui structure la personne humaine. La personne humaine est intelligente, mais elle est intelligente d'une intelligence qui reste capable de discerner ce qui est ma fin de ce qui n'est pas ma fin, de discerner le réel de ce qui est possible. C'est le second élément de la personne.